OK, on va commencer notre 10e leçon dans notre série sur la sanctification biblique. Alors, ce soir, on va regarder la sanctification pratique, l'exemple de Moïse. On va voir que, dans le fond, quand on étudie, même de façon très sommaire, la vie de Moïse, qu'il nous donne des super de belles exemples de foi. Alors, on lit dans Hébreux 11, par exemple. Souvent, en Hébreux 11, on dit que c'est le chapitre des héros de la foi. Quand on lit ce chapitre-là, on nous défile toute une série de noms de l'Ancien Testament et des actes de foi que ces gens-là ont fait qui sont extraordinaires. Et bien entendu, Moïse est mentionné dans ce chapitre-là. Alors, dans Hébreux, chapitre 11, les versets 24 à 26, ça dit « Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, estimant l'opprobre de Christ comme un trésor plus grand que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait en vue la rémunération. » Alors on le sait, les saintes écritures en général, toujours, sont pratiques. Ils nous donnent des exemples. Alors ici, on a l'exemple d'un grand croyant. Alors les chrétiens peuvent vraiment grandement profiter de l'étude attentive d'un caractère. Quand on prend, disons, je ne sais pas moi, David, Moïse, bien d'autres, là, on peut grandement profiter parce qu'on apprend plein de choses sur la façon dont ils ont agi dans le temps qu'ils étaient sur la terre, leur relation avec Dieu, leur vie de prière et bien d'autres choses encore. Alors, l'étude attentive des saints qui sont décrits dans la Bible, c'est quelque chose de très profitable. On le sait, comme être humain, on a besoin de modèles et les Écritures nous en donnent plein de modèles qu'on a intérêt à regarder leur vie et à les imiter. Alors, si on étudie même sommairement la vie de Moïse, on va apprendre qu'est-ce que c'est que de vivre par la foi. Alors, l'histoire de Moïse nous atteindra plus facilement que celle d'autres grands croyants mentionnés dans le chapitre 11 du livre des Hébreux, pour une raison bien particulière. Parce que si tu regardes le chapitre 11 de Hébreux et tu le lis avec attention, tu vas te rendre compte que beaucoup des noms qui sont mentionnés qui étaient des martyrs. Tandis que Moïse, c'est pas qu'il n'a pas eu ses souffrances sur la terre, mais il n'a pas eu une vie de ce qu'on pourrait appeler un martyr. Alors, il a vécu des expériences qui étaient plus, je dirais, peut-être semblables aux nôtres, mais bien sûr, lui avait une responsabilité qui était énormément plus grande que la nôtre. Alors, par exemple, Abel avait à offrir des sacrifices de manière littérale. Nous n'avons pas, nous, à faire ça, offrir des sacrifices. Nous n'avons pas non plus à bâtir une arche comme celle de Noé. Alors, quand on va arriver au chapitre de Genèse, où je vous montrerai la dimension de ce bateau-là qu'il a construit, il n'était pas beaucoup, là. Il y avait juste lui, puis ses trois fils, puis les femmes. Donc, ils ont fait ça, on pourrait dire, à quatre. Et quand vous allez voir la dimension de ça, qu'on le voit sur une diapositive, on est vraiment hors. Alors, on parle qu'il aurait pris plus de 100 ans pour construire ça. Alors, ça prend de la suite des idées pour embarquer sur un projet de même, puis le poursuivre pendant autant d'années. Alors, on a l'exemple de Abel, on a l'exemple de Noé, et on a l'exemple aussi d'Abraham qui est obligé de quitter son pays. On a d'autres exemples qui sont mentionnés dans le chapitre 11 des Hébreux, Isaac, Jacob. Et on pourrait prendre toute une multitude d'autres noms qui sont mentionnés dans ce chapitre-là comme étant des exemples à suivre, des modèles de foi. Alors Moïse va être plus près de nous, on pourrait dire, qu'il va être plus familier. Et il va plus présenter des similarités avec notre propre expérience de chrétien. Alors, ce qu'on va regarder comme premier point, c'est ce que Moïse a abandonné et refusé. Des fois, on lit ça rapidement, mais on ne se rend pas compte jusqu'à quel point qu'est-ce qu'il a abandonné et qu'est-ce qu'il a refusé, c'est à grand. Alors, Moïse a abandonné trois choses pour l'amour de son âme. Et ces choses-là seront les trois choses, les plus grands sacrifices qu'un cœur humain peut faire. Alors, à cette cet aspect-là, il est vraiment un modèle pour nous de regarder comment il a agi. Quand on dit « Moïse a abandonné son rang et sa grandeur », il faut se replacer dans le contexte de l'époque. L'Égypte, c'était comme l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. C'était la puissance mondiale, à la fois économique et militaire. Et il était devenu le fils de la fille du pharaon. Alors, il était comme si aujourd'hui, on serait, je ne sais pas, mais, vice-président ou quelque chose comme ça. Là. Il était très élevé dans la hiérarchie sociale de cette époque-là. Puis ça dit, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors, à 40 ans, on sait qu'il a décidé, que lui, il décidait de libérer son peuple parce qu'il croyait que c'était la mission que ce Dieu lui avait confiée. Alors, on sait, la fille de Pharaon avait préservé sa vie, avait été mis sur le fleuve parce que les femmes avaient pour ordre de détruire les vies des mâles qui naissaient des Israélites. Alors, elle l'avait adopté, elle l'avait éduqué. Il aurait probablement pu devenir roi d'Égypte, ou du moins un des très grands d'Égypte. Si on se place dans le contexte social, t'es riche, t'es puissant, t'es respecté, puis tu abandonnes tout ça pour suivre le Seigneur et dans une mission qui n'était pas évidente, vraiment pas évidente. Alors la tentation était grande, il jouissait d'un rang plus qu'enviable, il jouissait du pouvoir, de l'honneur, des titres, des dignités pour lesquelles les hommes s'entretuent pour obtenir même une partie de ce qu'il aimait. Alors, ce sont les choses, bien entendu, pour lesquelles les hommes sacrifient leur temps, leur pensée, leur santé, en un mot, la vie elle-même. Alors, il refusa tout cela. Alors, c'est quelque chose que si on s'arrête à y penser un petit peu. Là. Alors, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Autre chose, il a refusé les plaisirs qui étaient attachés à ça. Quand il vivait dans une société aussi riche, puis tu vivais dans les hautes classes de la société comme ça, il n'y avait pas grand-chose que tu pouvais tout te permettre, autrement dit. Alors, Moïse avait à sa portée la jouissance de tous les plaisirs possibles. Ceux de nature sensuelle, ceux de nature intellectuelle et ceux de nature sociale. Il y avait vraiment tout cela à sa portée. L'Égypte était un pays, à cette époque-là, rempli d'artistes, de savants et de gens habiles de tout genre. Il aurait pu jouir du monde. Alors, on lit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » Des milliers de personnes ne vivent que pour satisfaire leur soif insatiable de plaisir qu'ils trouvent dans les voyages, dans les amusements, dans les spectacles, dans les livres, dans les cinémas, le théâtre, etc. Et je dirais plus particulièrement les plaisirs du corps. En général, on voit que les gens vivent plus pour ça. Donc, deux choses qu'il a refusées, il a abandonné son rang et sa grandeur. Deuxième chose, il a refusé tous les plaisirs qui étaient rattachés à sa fonction. Et troisième chose, il a refusé les richesses. On n'en voit pas beaucoup qui font ça. C'est quelque chose que, historiquement, quand on lit l'histoire de l'Église, il y a eu quand même plusieurs exemples de personnes qui ont fait ça dans leur vie. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, Moïse méprisa ce que, selon l'expression des Écritures, méprisa les trésors de l'Égypte. Il refusa cette très abondante richesse. Il faut se rentrer dans l'époque pour savoir que les dirigeants de cette époque-là vivaient dans un luxe incroyable. Ça n'a presque rien de comparable avec aujourd'hui. C'était vraiment, là, quand on pense comme les pharaons qui avaient fait construire les pyramides là, juste pour leur lieu d'enterrement, là, et ça coûtait des fortunes. Ils vivaient dans un luxe incroyable. Alors, on peut en juger par leurs pyramides, leurs obélisques, la grosse obélisque qu'il y a sur le terrain à Rome, l'Église catholique, là, il y a un gros obélisque, là, un énorme obélisque là, dans le milieu, droit au centre de la place centrale. Mais ça vient d'Égypte. Ils ont transporté ça d'Égypte, puis ils ont mis ça là. À quelque part, ça donne une idée de la grosseur. C'est vraiment des monuments, des colonies monumentales, des monuments monumentaux. Leurs obélisques, leurs temples, leurs bâtiments, leurs châteaux et leurs jardins. Alors, il y avait cette richesse-là qui vivait dedans. Et bien sûr, en voulant libérer le peuple d'Israël, ils se trouvent à avoir abandonné ça en même temps. Alors, leur richesse leur conférait un pouvoir immense et enivrant. Le pouvoir enivre, dans le sens que quand on a le pouvoir et qu'on peut se permettre de jouer avec la vie des gens à volonté, ça enivre l'orgueil humain. Alors, il y avait tout ça, là. Et bien entendu, les gens qui acquièrent, les hommes qui acquièrent une telle richesse, souvent, ça donne un mal fou pour les acquérir. Et ils s'en servent bien souvent pour cacher ce qu'on pourrait appeler leurs défauts et se revêtir de vertu. Parce que bien entendu, les gens qui sont riches puis qui donnent des subventions à gauche puis à droite, sont toujours flattés dans le sens du poil, comme on dit. Alors, à quelque part, ils se font toujours dire « Ah, votre gracieuse majesté, comme vous êtes généreux envers nous. » Et à quelque part, ça, les gens qui ne sont pas habitués à ça, là, ça peut facilement monter à la tête. Comme on... Alors, Moïse a refusé tout cela, son rang, ses plaisirs et ses richesses en même temps. Alors, quelque part, c'est vraiment un modèle à suivre dans notre foi. Et il y a une chose qu'il a fait, qu'il faut remarquer, c'est qu'il l'a fait délibérément. C'est pas quelque chose qu'il a été poussé à faire, c'est pas quelque chose qu'on lui a commandé de faire. Il a décidé, il avait alors 40 ans. C'est drôle parce que la vie de Moïse, il a 120 ans, elle se divise en trois parties. Il a été 40 ans dans les richesses, quand il a voulu sortir le peuple d'Égypte, il était 40 ans dans le désert. Et après ça, son dernier 40 ans, ça a été... Alors, on voit qu'il y a des périodes dans la vie d'une personne. Alors, dans sa vie à lui, il y avait cette... à 40 ans, en pleine santé, plein de pouvoir, plein de richesses, il abandonne ça pour suivre. Il était éduqué aussi, bien entendu, parce que ça dit qu'il avait été éduqué par la fille de Pharaon. Dans Actes 7, et versets 22-23, on lit quelque chose concernant Moïse. Ça dit « Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Mais quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. » Ça, c'est sûrement le Seigneur qui lui mettait ça à cœur. Alors, quelque part, il le fait délibérément et il le fait librement. Alors, rien ne l'obligeait à faire ça, rien ne le contraignait à faire ça. En un mot, il fit le plus grand sacrifice qu'un mortel puisse faire. L'étudier votre histoire sur tous les angles, surtout l'histoire religieuse, vous allez voir qu'il n'y en a pas la tonne des gens qui ont fait des choses aussi grandes que cela, que d'abandonner tes richesses, ta pouvoir, le prestige et tout cela, pour obéir à ce que le Seigneur lui avait mis à cœur. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est ce que Moïse a choisi. Donc, le premier point qu'on a regardé, c'est ce que Moïse a abandonné et refusé. Le deuxième point, on va regarder ce que Moïse a choisi. Les choix de Moïse sont aussi merveilleux que ses refus. Il a choisi trois choses pour l'amour de son âme. La première, il a choisi la souffrance et l'affliction. Abandonner ça pour savoir que si tu changes ça et tu suis ton idée que tu as à cœur, ça va t'emmener des afflictions. C'est pas évident que tu choisis ça. Alors Moïse a pris parti pour les enfants d'Israël qui étaient un peuple en état d'esclavage, qui étaient maltraités, qui étaient persécutés. Alors les Israélites, on le sait, par les Égyptiens, étaient méprisés, haïs. Alors Moïse a choisi de devenir l'un d'eux, une personne qui deviendrait dorénavant, qui était socialement riche et prestigieux, et tous les plaisirs qu'il avait rattachés à ça. Il a choisi délibérément de se joindre à un peuple qui était méprisé, haï, et persécuté par les Égyptiens. Moïse ne voyait pas comment Dieu pouvait libérer ce peuple. On le voit quand on lit un peu le début d'Exode, on se rend compte qu'il n'est pas trop sûr, il y a des doutes. Alors, il choisit donc de partager leur souffrance, parce qu'ils n'étaient pas sans savoir comment ces gens-là étaient traités. Quand on lit le livre de l'Exode, on voit que pour faire des briques, ils avaient même enlevé le nécessaire et ils demandaient la même quantité qu'avant. Autrement dit, on t'enlève ce qui est nécessaire pour en faire, puis on te demande d'en faire autant qu'avant, sinon plus. Alors, ils étaient vraiment dans la souffrance, ils étaient humiliés, ils étaient dans les épreuves jusqu'aux oreilles, dans la pauvreté, dans les détresses, les anxiétés. Et possiblement la mort, parce qu'à cette époque-là, s'il y avait un chef des Égyptiens qui ne t'aimait pas la fuse, comme on dit, tu risquais qu'il pouvait te tuer de là, puis il y a pas grand-chose que tu pouvais faire. Alors Moïse, à cet effet-là, il a fait preuve d'un courage vraiment extraordinaire, incroyable. Donc la première chose, c'est qu'il a décidé de choisir la souffrance et l'affliction. Et la deuxième chose, il a choisi la compagnie d'un peuple méprisé. Moïse abandonna la compagnie des puissants, des riches et des célèbres. Il a volontairement choisi de partager sa vie avec des esclaves. Quand tu y penses, là, tu es dans la plus haute classe de la société, puis tu dis, bon là, je m'en vais vivre avec des esclaves méprisés, maltraités, et tout cela. Alors, il était vraiment des personnes qui étaient oppressées, tourmentées, et des ouvriers d'une condition lamentable. Je ne sais pas si vous voyez la chute, là, mais elle est énorme, la chute. Alors, les êtres humains pensent qu'il leur est suffisant de porter leurs propres problèmes. En général, c'est-tu vrai, ça, ou c'est pas vrai? Les nôtres, c'est assez. Lui, alors, ils peuvent parfois sympathiser avec les pauvres. Des fois, on a nos problèmes. On peut avoir une petite sympathie pour les pauvres, les maltraités, les mépriser. Mais ils peuvent même parfois tenter de les aider, leur donner de l'argent pour soulager leur misère. Ils peuvent même parfois parler en leur nom, mais en général, ça s'arrête là. Moïse s'ajoute volontairement à leur société et à leur sort. Ça, c'est quelque part extraordinaire. Il décide de vivre avec eux et avec toutes les conséquences que cela implique. Si tu te joins à une gang de pauvres, une gang de méprisés, tu vas être toi aussi être pauvre, tu vas être maltraité, tu vas être méprisé. Il le fait volontairement pour Dieu. Troisième chose, il choisit le reproche et la moquerie. Imaginez-vous, vous êtes à la tête d'un pays, vous jouissez de toutes ces choses-là, et du jour au lendemain, vous faites un geste semblable de vous joindre à ce qu'on pouvait appeler la lie de la société. La lie de la société, c'était ce qu'il y avait de plus bas, là. Et de se joindre à eux et de vouloir les libérer. Alors, il s'embarquait dans vraiment un gros contrat, comme on dit. Alors Moïse a choisi le reproche et la moquerie. Alors on peut imaginer le torrent de moquerie et de ridicule que Moïse a attiré sur lui. On voit la cour qu'il connaissait, tu sais. Hein? Es-tu malade? T'en vas que ça? Il ne comprenait pas, sûrement. Alors il a dû se faire vraiment mépriser. On a dû l'accuser de tous les maux du monde, de folie, de faiblesse, d'inconscience. Parce qu'il perdait beaucoup de choses qui étaient chères à ceux qui demeuraient en pouvoir. Donc, le pouvoir, la richesse, les plaisirs et la réputation. Peu de choses. Ça, c'est quand j'ai lu cette phrase-là la première fois dans le commentaire que je me sers, j'avais trouvé ça extraordinaire. Peu de choses sont aussi puissantes que le ridicule et le mépris pour l'entourage. Il n'y a rien qui nous fait plus mal que d'être méprisé et d'être haï par notre entourage. Par du monde qui ne nous connaissent pas pantoute, mais par des gens qui te connaissent beaucoup, ça fait, comme on dit, bobo. Alors, il y avait vraiment. Ils peuvent faire davantage que l'inimitié ou la persécution. Bizarre de dire ça, hein? Faire mépriser, puis te faire moquer, c'est plus puissant pour te faire changer d'idée que l'inimitié ou la persécution. C'est bizarre, hein? Mais on est très, très sensible à ça. Tous les humains, il n'y a aucune exception à ça, là. Alors, quelque part, peu de personnes sont capables de faire rire ouvertement d'eux, de devenir l'objet des plaisanteries cruelles, de subir du mépris ou du rejet, ou de passer pour fou, pour faible ou pour ridicule. Et c'est ça qui s'est passé à son époque. Quand il a décidé de faire ça, il a dû se faire bombarder de toutes sortes de choses qui devaient lui faire vraiment très mal. Alors, quelque part, ça nous donne un exemple de foi que parfois, pour suivre le Seigneur, ça coûte quelque chose. Troisième point qu'on va regarder, c'est que Moïse a été motivé par un principe de foi. Bien sûr, ça a été le fil conducteur de sa vie. Moïse a eu le courage d'affronter tout cela parce qu'il avait reçu de Dieu la foi qui sauve, la révélation de la venue future du Messie sauveur et la révélation des promesses faites à Abraham. Alors, il y a une belle petite phrase qui était mentionnée, ça disait « La foi est la fontaine d'où Moïse reçoit toute sa force et son courage. Toutes ses actions sont basées sur ce fondement. » Alors, quelque part, si on étudie sa vie, à partir du moment qu'il a vraiment eu une vie difficile. Dieu lui avait parlé et il eut foi en la parole de Dieu. Premièrement, il crut que Dieu était capable de tenir ses promesses et qu'il s'engagerait, qu'il s'acquitterait des engagements de son alliance. Alors, quand Dieu te met à cœur de libérer le peuple d'Égypte, c'est bien sûr qu'à première vue, il va se demander, « Veux-tu bien me dire comment ça va se faire? » Alors, quelque part, il a eu foi que Dieu serait en arrière de lui, que Dieu lui donnerait la capacité d'accomplir sa mission. Il crut aussi pour Dieu que rien ne soit impossible tel que la libération d'un peuple dans l'état d'esclavage. C'était pas évident. Tu avais l'armée égyptienne qui était très puissante et eux étaient en état d'esclavage, très pauvres, pas d'armes. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent ces gens-là pour se libérer? Il n'y a pas grand-chose à faire. Il crut aussi en la sagesse infinie de Dieu, malgré que lui, personnellement, ne voyait absolument pas comment Dieu procéderait, et malgré l'apparente absurdité du projet. Dieu peut permettre parfois de nous donner une mission qui, à première vue, peut paraître absurde. Ça n'a pas de bon, je ne suis jamais capable de faire ça. Toi, oui, d'accord, quand tu dis « je ne serai jamais capable », je vais te dire « oui, amen, tu ne seras jamais capable ». Mais avec Dieu, tu peux faire toutes choses. Il crut aussi en la miséricorde de Dieu qu'il ne leur accorderait pas une goutte d'amertume au-delà de ce qui était absolument nécessaire. Dieu est très sage dans la distribution de ce qu'on pourrait appeler la souffrance, l'amertume. Il contrôle nos circonstances de vie. Et il ne nous en donne jamais plus, comme les Écritures, de plus qu'on est capable d'en supporter. Des fois, il se rend limite, il faut bien le dire, je crois. Mais il ne nous en donne jamais plus qu'on est capable de supporter. Alors, la foi était un télescope pour Moïse. Par ce télescope-là, il voyait au-delà du visible. Il voyait que le repos, la paix et la victoire seraient obtenus. Il voyait que sa faible raison n'arrivait pas à le voir, mais que les épreuves, les privations, les tempêtes, les souffrances étaient des instruments dans les mains sages de Dieu. À quelque part, quand on lit ça, il faut remarquer que Dieu fait la même chose avec chacun d'entre nous. La même chose. On passe par des épreuves et tout cela, c'est tricoter nos circonstances par Dieu lui-même, comme ça nous dit dans Romains 8, 28, « Toutes choses travaillent ensemble, contribuent à nous faire rassembler davantage à Jésus-Christ. » Donc, la foi, c'était un télescope pour lui. Il voyait au-delà. La foi était aussi un interprète pour Moïse. Par la foi, il arrivait à donner un sens au commandement de Dieu qui lui paraissent sombres et mystérieux. Par elle, il crut que la perte de son rang, de ses plaisirs, de ses richesses n'était rien et que toutes ces choses n'étaient que vanité, vide et éphémère. Il comprit que la véritable grandeur était servir Dieu. La même chose pour nous. La véritable grandeur est toujours en même place, servir Dieu encore aujourd'hui. Il comprit qu'il valait mieux être le dernier au ciel que le premier en enfer. Il comprit que Dieu se servirait des afflictions et des souffrances comme d'une école divine pour son apprentissage des choses célestes, comme d'une médecine pour purifier sa volonté corrompue, comme d'une fournaise pour brûler ses scories spirituelles et comme d'un couteau pour couper tous ces liens qui le tenaient attaché au monde. Il avait compris que les Israélites étaient le peuple de Dieu, qu'ils avaient reçu l'adoption divine, les alliances, les promesses, les bénédictions et la gloire. Et il était absolument persuadé que le Messie promis verrait le jour. Il était résolument décidé que l'opprobre de Christ serait aussi la sienne et que celui-ci était plus grand que tous les trésors d'Égypte. Il avait en vue la rémunération, comme ça dit dans le texte. Il voyait loin. Il voyait la rémunération future. C'est un peu comme nous, si on décède... Asseyez-vous, le fun. Devenez très, 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 très zélé pour le Seigneur autour de vous, là. Sans arrêt, là. Vous allez voir que vous allez vous faire brosser la cage sérieusement par le monde. Très sérieusement. Mais à quelque part, qu'est-ce qui peut permettre qu'une personne puisse traverser des périodes comme ça aussi intenses et persévérer? C'est parce qu'on voit plus loin que le bout de notre nez. On voit la rémunération, un peu comme Moïse voyait la sienne. Alors, j'ai quelques applications à partir du texte de cette très, très brève étude de Moïse. On aurait pu faire une étude beaucoup plus approfondie de toute sa vie. Alors, la première application, c'est comme Moïse, nous devons choisir Dieu avant le monde. Il ne s'agit pas pour nous d'abandonner notre position, notre rang ou nos richesses, quoique beaucoup de croyants l'ont interprété de cette manière. L'idée est davantage que nous devons nous préparer pour la tribulation et à endurer des choses difficiles pour suivre le chemin étroit et resserré. Nous devons choisir qui nous voulons servir, Dieu ou Mammon. Nous devons comprendre et accepter qu'il n'y a pas de foi qui sauve sans sacrifice ou sans déni de soi. Notre religion nous coûte-t-elle quelque chose? Portons-nous la croix dont nous parlent les Saintes Écritures dans Luc 14, 26 et 27? C'est le Seigneur lui-même. Jésus dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » On pourrait passer des heures juste sur ce petit texte-là. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. « Or, vous avez tout lu ça? Tous ceux qui veulent vivre selon la piété, ou bien non pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous allez être persécutés, ou sinon, vous ne le suivez pas pieusement. » Parce que c'est le Saint-Esprit qui le dit. Hébreux 11, versets 36 à 38. D'autres passèrent par l'épreuve des moqueries et des verges, et même des liens et de la prison. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils moururent par le tranchant de l'épée, ils errèrent là et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et sur les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Quel beau chapitre à étudier. Hébreux 11, c'est un chapitre extraordinaire à étudier. Jean 15, versets 19 et 20. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. » Donc, première chose, application, comme Moïse, nous devons choisir Dieu avant le monde. Deuxième application, comme Moïse, seule la foi nous rendra capables de choisir Dieu. La foi qui sauve, c'est celle qu'on a reçue de Dieu. Elle seule peut nous rendre capables de choisir Dieu. Non la connaissance, non les sentiments, non l'usage de moyens externes, non les compagnons. Toutes les autres choses n'ont pas la puissance de la persévérance. Le croyant doit être persuadé que les promesses de Dieu sont sûres. Tout ce que Dieu dit dans la Bible est vrai. Toutes les paroles de Dieu doivent être reçues, obéies et appliquées. Toutes les voies divines sont excellentes et les autres sont mauvaises. Toutes les promesses sont meilleures que toutes les possessions terrestres. Toutes les choses invisibles sont meilleures que les visibles, et qu'une seule louange à Dieu est meilleure que toutes les louanges des hommes combinées. Alors, on va regarder aussi l'idée que la troisième application, que l'absence de foi rend les personnes impies et mondaines. L'absence de foi authentique qui sauve donne des résultats désastreux qui suivent. les résultats désastreux qui suivent. Ils accordent plus d'importance aux choses temporelles qu'aux choses éternelles. On le voit autour de nous tous les jours. Ils préfèrent le monde à Dieu. Ils accordent plus d'importance aux choses du corps qu'à celles de l'âme. Et quatrième application, le vrai secret pour faire de grandes choses pour Dieu est d'avoir une grande foi. La foi qui sauve est la racine et la mère de tous les grands accomplissements. Sachons que notre vie ne sera grande que dans la proportion de notre foi. Notre patience, notre courage, notre zèle et nos œuvres seront en proportion directe avec notre degré de foi. C'est important de réaliser ça. Plus notre foi va être grande, plus ce qu'on va faire pour le Seigneur va être grand. Alors, implorons le Seigneur de l'augmenter. Lui, il est capable de le faire. La foi fut la source des vies fructueuses des grands chrétiens. Lisez n'importe quelle biographie de grands chrétiens, j'en ai lu au moins 15-20, Et c'est quelque chose qui est présent dans toutes les vies de ces gens-là. On prend Spurgeon, John Gill, Whitfield, McShane, Jonathan Edwards et une multitude d'autres, quand vous regardez leur vie, toutes des gens qui avaient une foi très forte. Ils prièrent beaucoup parce qu'ils avaient une grande foi. Ils furent diligents et laborieux parce que leur foi était à l'œuvre. Ils étaient courageux et remplis de hardiesse parce que leur foi accomplissait honnêtement leur devoir. La sainteté était la caractéristique de leur vie. Ils vivaient selon le principe vivant de la foi. La foi était visible, observable et incarnée. Crions au Seigneur, « Seigneur, augmente ma foi. » La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus on passe de temps dans la parole, plus on augmente la foi. La foi est la racine du caractère chrétien. Que notre racine soit bien plantée et notre fruit abondera. Notre prospérité spirituelle sera toujours en proportion directe de notre foi. Que notre grand Dieu soit loué, béni et exalté pour son don ineffable, la glorieuse personne de Jésus-Christ. Amen. Amen.